Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Galli.
Vous êtes sur RMC pour vivre l'épilogue de cette saison régulière de Top 14. À l'issue de cette 26e journée, nous connaîtrons les 6 équipes qui vont participer aux phases finales. Johan Huger est à mes côtés. Il est au taquet pour nous faire vivre les 7 matchs. Bon, il nous a annoncé qu'il allait y avoir aucun changement, aucune surprise, mais sait-on jamais. Je peux vous dire déjà que nous aurons également Wilfried Templier, le responsable du rugby à RMC, qui nous fera un point sur les enjeux, les gagnants, les perdants tout au long de la soirée, à compter de la seconde période. On va tout de suite reprendre la direction de la Défense Arena, le Racing 92 face à Toulouse. On est avec Clément Cressio et là, il y a de l'enjeu évidemment, parce qu'on rappelle que c'est le cinquième qui reçoit le leader, Clément.
Et oui, le Racing peut perdre sa place ce soir dans les 6. Et pour la conserver, il suffit de gagner. Ça n'est jamais simple face à Toulouse, mais les Toulousains continuent de travailler en vue des demi-finales. Alors ils alignent une équipe, on va dire, remaniée, quelques petits tests, un gros banc tout de même. Le Racing va devoir faire le boulot ce soir. Et d'ailleurs, ce soir, le Racing va aussi avoir envie d'offrir une victoire à leur champion de France 2016, puisque le club francilien, voilà, fête ses champions. Ils sont actuellement alignés sur la pelouse pour accueillir l'entrée des joueurs. Alors on a pu voir pêle-mêle Roanimoff, Anthony Classen, Louis Dupichot. Et un absent, côté bordelais, puisqu'il y a Bentamey Founa qui est là avec son épaule en écharpe au milieu de ses coéquipiers pour donc ce sacre des champions de France 2016. Une raison de plus pour le Racing de gagner et donc de conserver cette place dans les 6 face à Toulouse ce soir.
On rappelle effectivement que là, le Racing 92 est cinquième avec 70 points et évidemment sous la menace des poursuivants. Johan, donc pour toi, le Racing 92 va s'en sortir face à des Toulousains qui sont fatigués, qui sont privés de certains éléments majeurs également, comme Dupont, on le rappelle.
Oui, ça c'est sûr. Dupont, on a l'habitude qu'il soit absent, que ce soit en équipe de France ou avec la blessure qu'il a subie l'année dernière avec son genou. Mais c'est une équipe de Toulouse qui va pas très bien en ce moment. Alors est-ce que c'est dû au fait des surcharges physiques qu'ils font pour préparer la demi-finale? Ils partent en stage dès demain en Espagne, donc ils ont pour moi pas trop la tête à ce genre d'ambiance, même si certains joueurs ont une place à jouer pour être dans l'équipe des demi-finalistes. Donc il peut y avoir une surprise, mais j'y crois pas trop.
On rappelle que les demi-finales se joueront à Marseille, ça sera les 19 et 20 juin. On va continuer notre tour des stades parce qu'il y a évidemment de l'ambiance et il y a également des enseignements à tirer à l'issue de cette dernière journée. On va aller voir Edouard G pour ce match entre le Loup et Montpellier. Montpellier qui est actuellement deuxième de ce classement de Top 14 et qui veut garder cette place ô combien importante. Et le Loup qui donc ce soir fête les 100 ans du Stade Gerland, un stade mythique.
Ouais, on est en pleine festivité avec un mini feu d'artifice de l'autre côté du terrain alors que les joueurs rentrent. On a des magnifiques tifos. Gerland à jamais dans le cœur des Lyonnais, côté virage nord. Le stade de Gerland, 100 ans, 1926, et on a vu sur l'écran géant, alors que Sonny Anderson tout à l'heure a dit quelques mots avant le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants, on a vu les visages de trois princes de Gerland, récemment disparu pour Brian Bergugnou, il y a trois semaines pour Floridinalo et il y a un an pour Bernard Lacombe. Donc on pense également à tous ces personnages-là du foot et on pense aussi à ce match alors que les 30 acteurs sont sur le terrain, que les festivités sont terminées et donc avec une équipe de Lyon qui a pas fêter peut-être une dernière et fêter les 100 ans n'a rien d'autre à fêter. Et du côté de Montpellier, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Julien Landry, on a envie de fêter une semaine, un petit peu de repos et donc s'éviter un match la semaine prochaine. Pour l'instant, eh bien, il faudra gagner. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par les Montpelliérains.
On part dans le sud-ouest, dans un autre stade ô combien mythique, c'est évidemment le stade de Chaban-Delmas, l'UBB face à Clermont, le 6e face au 8e, un match à enjeu, Pierre Thévenet, les joueurs sont sur la pelouse.
Et c'est même parti à l'instant, coup d'envoi tapé par Hugo Reuss et les Bordelais dans leur couleur traditionnelle marine et bordeaux. les Clermontois sont en blanc en face. On rappelle les enjeux. Bordeaux doit gagner pour rester dans les 6, doit même gagner avec le bonus offensif pour être certain d'être qualifié en phase finale. Sinon, il faudra attendre les résultats de La Rochelle et du Racing. Clermont, de son côté, est hors des 6 au coup d'envoi, mais peut encore espérer une qualification en cas de victoire sur la pelouse de Chaban-Delmas. Premier ballon récupéré par l'arrière-garde de bordelaise, et c'est Maxime Lucu qui va pouvoir jouer avec ses avant. Boris Palu au niveau de la ligne médiane.
Et le premier essai de ce multiplex pour la section paloise. Un petit coup de pied dans la boîte de Thibaut Novagna. Et à la course, c'est Nathan Decron, l'ancien Agenais, qui se couche. Et bien, le festival offensif est déjà parti après seulement 48 secondes. Ici, donc, sur cette pelouse du Hamon, on rappelle l'enjeu, Karine, évidemment. La section paloise, d'ores et déjà qualifiée pour les phases finales, vise un barrage à domicile. Pour cela, il faudra à minima s'imposer. Et bien, les Palois démarrent de la meilleure des manières avec cet essai, donc, de Nathan Decron. 5-0 pour la section avant la transformation à venir pour Joe Simon.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau, Eddy. Hein.
Évidemment, Karine, je ne te le fais pas dire.
Johan, entame de match parfaite pour les Palois. Même pas 2 minutes de jeu, déjà un essai.
Ouais, ça va être long pour ces Montalbanais. Hein. Ouais. J'ai de la peine pour leur dernier match avec une section qui veut confirmer sa troisième place. Donc, bon, on va être souvent interrompu, il me semble, du côté de Beau ce
soir.
Non,
on vous laissera la main, Johan et Karine, évidemment.
Merci beaucoup.
C'est vrai. Au stade du Hameau, ça peut effectivement scorer énormément en faveur de l'équipe qui joue à domicile. Pau. On va retourner voir ce qui se passe du côté du Racing 92. C'est parti également, Clément Cressiot.
Et oui, le match est lancé depuis une minute. Ce sont les Racingmen qui ont la main sur le ballon. Coup d'envoi tapé par Blair Kinghorn côté toulousain. Voilà, les Racingmen ont 80 minutes pour conserver leur place dans les 6 premiers du top 14. Pour l'instant, Léo Carbonneau sur sa ligne des 40 qui va monter une chandelle. Sur le premier ballon, on a déjà vu un accrochage entre Paul Coste et Naitouvi. On sent qu'il y a de la tension dans l'air ce soir. Les Racingmen ne vont pas cesser faire à la maison. Ils vont tout faire pour arracher la victoire. Ça se sent. Et là, on est dans le camp toulousain qui vont maintenant avoir le ballon et faire un petit temps jeu avant de se dégager. Allez, Toulousain pour l'instant appliqué, on va dire, dans cette rencontre. Ça a commencé depuis 1 minute 50 0-0.
On part à La Rochelle. La Rochelle opposée au Stade Français. Romain Asselin, c'est parti.
Ouais, 3 minutes de jeu, 0-0 pour l'instant, et déjà une deuxième mêlée dans ce match. Introduction au Stade Français sur ses 40. La première a été remportée, c'est un signal fort hein, par le pack de La Rochelle. On connaît la solidité du 8 de devant parisien, pénalisé une deuxième fois. Tiens, sur propre introduction cette fois, avec leur géorgien devant, Abramovich-Vili et Melikidze. Eh bien, ils sont mis deux fois à l'amende dans l'espace de 3 minutes. Et le choix à surveiller des Rochelais, on le sait, hein, pour maximiser leurs chances de qualif, eux qui n'ont pas leur destin entre leurs mains, il faut aller chercher le bonus offensif ce soir. Il faut déjà construire le match. Est-ce qu'ils vont prendre les points ou aller en touche? Ce sera le choix de la touche pour Antoine Astoy à 40 mètres. Il va se rapprocher dans les 22 mètres du Stade Français. 0-0 pour l'instant après 3 minutes, mais grosse occasion peut-être à venir pour La Rochelle.
Tu aurais fait le même choix, Johan?
Pardon, j'étais en train de regarder les matchs.
Eh ben pardon, non, parce qu'il y a le choix entre la touche ou prendre les points. Est-ce que tu aurais fait le même choix?
Non, bien sûr, ils courent après le bonus offensif. Donc il faut aller en touche, il faut marquer le maximum de points le plus vite possible.
Je ne te dérange plus, je te laisse regarder les matchs, bien évidemment. Il est bien installé, nous avons toutes les télés pour être sur les différentes pelouses de top 14. On retourne voir l'UBB. L'UBB, on rappelle qu'il est opposé à Clermont, Pierre Thévenet.
Quatrième minute de jeu et Bordeaux a ouvert le score. Déjà une pénalité de Hugo Reuss au niveau de la ligne des 22 mètres après deux fautes coup sur coup des Clermontois, notamment sur un ballon porté de l'Union Bordeaux-Bègle. Mais là, les Clermontois ont le ballon à l'entrée des 22 mètres bordelais. Mais la récupération pour l'UBB. Attention sur la contre-attaque avec Yoram Moefana qui décale LBB dans son couloir. On va revenir intérieur avec une grosse percussion de la part de la troisième ligne bordelaise et de Pierre Beauchaton. Johan, on sent des envies de jeu côté bordelais. Ça envoie du jeu dans tous les sens.
Voilà, c'est bien parti. Hein. C'est bien parti. Vous passez une très belle partie sur du côté de Bordeaux. Maintenant, attention aux Bordelais de bien rester fort sur leur base. Ils marquent 3 points, coup d'envoi un peu manqué et ils se mettent un peu le feu. Donc, il va falloir qu'ils se remettent au diapason tout doucement de ce top 14 qui est très dur.
Énorme plaquage de Marcos Kremer à l'instant. Bordeaux mène 3-0 sur sa pelouse face à Clermont. Cinquième minute de jeu.
On retourne à La Rochelle. La Rochelle face au Stade Français. Romain Asselin avec toi à Des Flandres.
À la première possession pour La Rochelle, 0-0 pour l'instant. On est devant les 22 mètres du Stade Français. Avantage en cours laissé par monsieur Charabas. Il y a déjà eu deux pénalités en mêlée pour les hommes de Ronan O'Gara. C'est un peu brouillon dans les transmissions. On va revenir à cette situation et cette faute commise par la défense du Stade Français. Pénalité sur les 22. Bon, je pense qu'ils vont retourner en touche, les Rochelais.
Laissez Montalbané, messieurs. Laissez Montalbané. Oui. On a annoncé une pluie d'essai certainement en faveur de la section paloise. Les Bernet qui avait marqué le premier essai. Ouais, en tout cas, pour qu'il me laisse 5-0.
C'est toi qui l'as dit, hein.
Oui, mais écoute, la glorieuse incertitude du sport. Et Montauban, donc, qui marque ce premier essai. Il y avait un petit coup de pied dans la boîte. La couverture, d'Emeric Luc qui se fait reprendre. Et ce sont les Montalbanais qui arrivent, à franchir cette ligne d'en but égalisation à 5 partout. Et la transformation à venir pour le buteur Montalbanais, il y a pour l'instant un petit peu de suspense sur cette pelouse du stade du Hameau. Donc, 5 partout. On va suivre, évidemment, la tentative de transformation du buteur de cette équipe de Montauban. On le rappelle, Karine et Johan, qui sera évidemment relégué la saison prochaine en Pro D2. On rappellera également que Van retrouvera le top 14 la saison prochaine et que la transformation en coin est réussie et que pour la première fois de la soirée, après 6 minutes de jeu, Montauban qui mène face à la section paloise 7-5.
Et tu l'as dit, effectivement, un bravo à Van qui a battu Provence Rugby 18-14 et qui va donc retrouver l'élite et le top 14. On va aller saluer également Julien Landry parce que c'est parti entre Castres et Toulon.
Oui, 0-0 entre les deux formations, pas mal de fautes de main. Et là, les Toulonnais qui sont à l'attaque avec Matteo Garcia qui rentre dans les 22 mètres. Les Toulonnais qui conservent le ballon et ils vont se faire pénaliser pour un déblayage illicite de la part de la troisième ligne. Le CO va donc récupérer le ballon. On est parti depuis 7 minutes à Pierre Fabre. Toujours 0-0 entre Castres et Toulon.
Direction Gerland-le-Loup face à Montpellier. Edouard G, pour l'instant, pas de points marqués.
Pas de points marqués, beaucoup de jeux en tout cas sur ces 6 premières minutes, 6 minutes 30 pour être précis, avec une première pénalité et le choix de Tom Banks là d'aller en pénal touche. Il aurait pu peut-être essayer de vouloir concrétiser ce premier temps fort en cherchant à marquer les 3 premiers points, mais on est allé un petit peu plus loin avec cette pénal touche et on progresse, on est à hauteur des 10 mètres, le ballon qui va ressortir, on va ressortir avec Cadeau qui va peut-être ouvrir la défense lyonnaise qui est bien présente, mais ce ballon est toujours disponible. On progresse un petit peu là de façon latérale, un petit peu toujours au même endroit, même si là on va essayer d'ouvrir pour Léo Colli, mais il y a le bon retour de la défense lyonnaise qui récupère le ballon dans un premier temps, le ballon qui est largement disputé et l'arbitre qui intervient à ce moment-là. Non, le ballon pour l'instant, il y a un avantage et les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager dans une entame de match. Vraiment beaucoup de rythme, pas de points, 7 minutes 30 de jeu, mais beaucoup de rythme de part et d'autre. On a envie d'envoyer du jeu, même si pour l'instant, il n'y a pas de points marqués. 0-0 donc, bientôt 8 minutes de jeu.
Ça chauffe au Racing, le Racing face à Toulouse, Clément Cressio.
Ça chauffe et peut-être le premier essai. Oui, le premier essai accordé par monsieur l'arbitre. On était sur un temps fort du Racing justement. Ça fait plusieurs minutes qu'ils sont sur la ligne des 5 mètres de Toulouse. Ça pilonne, alors que les Toulousains ont pourtant bien défendu le mois précédent. Mais sur une grosse mêlée, ce sont les Racingmen qui ont récupéré le ballon. Ils ont multiplié les temps de jeu devant. Et là, c'est Johnny Hill, le deuxième ligne anglais, qui parvient enfin à passer la ligne. Pour l'instant, ce sont les avants qui se luttent du côté du Racing. Premier temps fort, premier essai déjà à 8 minutes de jeu. 5-0 en attendant la transformation. Et voilà, le Racing de Patrice Colazo qui met sa patte sur cette rencontre pour l'instant. On a vu les trois quarts venir en soutien aussi pour dans les rucks. En même temps, quand on a le physique de Tussova ou de Abossi, on peut venir filer un coup de main dans les pick and go et dans les rucks, tu vois.
Non. Oui, ça c'est sûr, avec leur gabarit, ils peuvent jouer bien troisième ligne. Et je pense que Josh Tuisova a déjà joué à Lyon et du coup par conséquent venir aider ce paquet d'avant qui en a besoin.
Et la transformation qui passe, donc ça fait 7-0, très beau coup de pied d'Antoine Gibert. Voilà le Racing qui débloque son compteur ici à la Paris Défense Arena.
Il y a également un match entre Bayonne et Perpignan et pour l'instant tout va bien pour Bayonne qui mène 19-0. Déjà 3 essais marqués pour Bayonne, c'est parti très fort.
On sait que les Perpignanais jouent l'access match le week-end prochain également, donc
ils ont fait tourner toute l'équipe Bayonne.
Je pense que j'aurais pu être titulaire, quoi. C'est ça que vous me dites, les garçons.
À peu près, pas quand même, mais
Parce que là, 19-0 au 3 mais c'est marqué.
Pour les Bayonnais, finir en bonne et due forme face à leur public, ils en ont besoin. Et malheureusement, les Perpignanais sont déjà dans la projection de la semaine prochaine.
Effectivement, ça va très vite. On retrouve Pierre Thévenet, l'UBB face
pour
à Clermont.
Juste pour info, juste Karine, oui, sur Lucas. D'ailleurs, Laurent Labitte, il a même pas emmené tout son staff avec lui à Bayonne. Il est parti avec le staff des Espoirs. Et la plupart de son staff, ils sont restés à Perpignan pour travailler sur l'équipe qui perdait cet après-midi entre Vannes et Provence. Oui. Donc, ils ont déjà basculé sur la préparation de l'Access dès aujourd'hui, sans se concentrer forcément sur le match à Bayonne.
Et ça se voit effectivement, vu le score déjà très large en faveur de Bayonne.
Heureusement que Bayonne n'avait rien à jouer, hein, parce que sinon, ça aurait déjà un peu faussé la partie.
Merci en tout cas, Julien, pour ces précisions. Pierre Thévenet, on est avec toi à Chaban-Delmas, l'UBB face à Clermont.
10e minute de jeu à Chaban, 3-0 toujours pour l'Union Bordeaux-Bègles grâce à la pénalité de Hugo Reus en tout début de match, mais Clermont a remis un petit peu la main sur le ballon, notamment via ses avants et via une défense qui est très agressive. Johan, ils montent très très fort les Clermontois, ils essaient d'impacter au maximum pour récupérer les ballons, et là ils ont une très bonne mêlée
pas loin,
à jouer à 10 mètres de leur but bordelais.
C'est Palois, ouais, qui repasse devant la section paloise sur une action bien Lucareil qui en deux temps
l'essai franchit la ligne d'en but. L'essai de Charlie Cassan, les Lyonnais qui viennent
partout. Alors juste on va terminer l'essai palois avec Eddy, on vient de voir juste après Edouard.
L'essai palois de Lucareil quasiment face au poteau, la transformation à venir pour Joe Simon, c'est la section paloise qui va donc mener 12-7. On joue Karine et Johan depuis un petit peu plus de 11 minutes dans cette première mi-temps.
Et Edouard, on vient de te voir donc les premiers points marqués par le Loup.
Avec une balle au départ récupérée par Arnaud Botta, il est presque dans son camp sur la ligne médiane et il va casser une ligne, deux lignes presque à lui seul, et après il a le soutien sur le côté de Charlie Cassan qui va griller la politesse à 3 Montpellierains pour aller aplatir le ballon, et ça fait 5-0 le demi de mêlée donc qui ouvre le score, et Martin Méliande qui va essayer de confirmer tout ça par la transformation. 11 minutes 20 de jeu, les Lyonnais héroïques en défense. Tout à l'heure on a vu Wayne Nicolo défendre incroyablement efficacement sur Tom Banks qui presque allait marquer l'essai, et bien derrière il y a cette action et ça fait des 5-0 puisque la transformation n'est pas faite, donc on en reste à 5-0, 12 minutes de jeu.
On va faire un tour des stades, le temps, le score. On est d'abord avec Pierre Thévenet, l'UBB face à Clermont.
11e minute de jeu, 3-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles dans cette rencontre, mais Clermont pousse dans la moitié de terrain de l'UBB.
Romain Asselin, on est à La Rochelle avec toi, La Rochelle face au Stade Français.
La 10e minute, 0-0 pour l'instant.
Clément Cressiot, le Racing 92 face à Toulouse.
12e minute de jeu, 7-0 pour le Racing, mais là Toulouse a une bonne touche à 5 mètres de l'embut défensilien.
Édouard G, Lyon face à Montpellier.
12 minutes de jeu, 5-0 pour le Loup, l'essai de Charlie Cassan à l'instant.
Nous sommes à Pau, pour Pau, Montauban avec Edgar Thigo.
Oh, l'essai Rochelet! L'essai Rochelet est important, Nolan Le Garra qui vient fructifier la domination. Ça fait 5-0 pour les Rochelais face à Paris après 10 minutes.
On va continuer à faire le tour des stades. Julien Landry, Castres-Toulon.
0-0 après 13 minutes de jeu, Pierre Fabre.
Ça score sur toutes les pelouses de top 14. Romain, on revient te voir entre La Rochelle et le Stade Français.
Ouais, c'est du cousu main ce que fait La Rochelle dans ses 10 premières minutes. Grosse domination et ils sont bien inspirés au niveau des combinaisons, même si c'était un petit peu brouillon dans les transmissions en début de partie. Là, c'est magnifique ce qu'ils font avec cette remise intérieure parfaite, cette passe au float de Nina Julie avant d'aller en touche pour Le Garec qui décidément n'en finit plus d'enfiler les essais en cette fin de saison. C'est son 12e essai personnel cette saison et il fait du bien à La Rochelle. 5-0.
Magnifique, il régale. Et Bayonne,
et le troisième essai palois.
Eh bien, et le troisième essai palois. On va jamais partir en pub.
Oui, le troisième essai palois avec Aymeric Luc, l'ancien Toulonnais, l'ancien joueur de l'Aviron Bayonnais qui déchire le rideau défensif et qui s'arrache, qui va aplatir entre les poteaux le troisième essai bernois. On rappellera que Pau avait mené 5-0, qu'il y avait une belle réaction de Montauban puisque Montauban avait mené 7-5, mais depuis il y a déjà eu 2 essais supplémentaires et Pau mène désormais 19-7 après 14 minutes en première mi-temps.
Et la réponse toulousaine, désolé pour la pub, mais là c'est Toulouse qui inscrit l'essai à l'instant sur une touche. On est venu amorcer un maul qui n'avance pas finalement, et derrière c'est Joshua Brennan qui s'échappe avec le ballon. Il arrive à casser un plaquage, enfin la toupie sur un deuxième plaquage et à s'écrouler dans l'embus. Voilà Toulouse qui répond immédiatement, le leader touché, et qui répond directement au Racing ici, 7-5 en attendant la transformation.
Johan, le deuxième essai pigeon. Cette fois-ci c'est Maracou qui va marquer le deuxième essai. Les Lyonnais sont tout feu tout flamme après avec cet essai, mais qui concrétise une action magnifique avec des récupérations de balles et surtout une énergie mise par les hommes de Karim Ghezal qui sont donc récompensés par cette deuxième essai. Il y a eu Charlie Cassandre et à l'instant donc Joshua Maracou, donc 10-0 en attendant la tentative de transformation.
Merci Johan, juste un petit mot Johan, parce que tu voulais réagir effectivement sur l'essai toulousain, tu disais tout en puissance.
Oui, tout en puissance de Joshua Brennan, hein. On voit sur une touche qui est mal embarquée et derrière il arrive à se sortir du vol et à enfoncer son vis-à-vis qui n'était pas évident dès le départ, mais c'était le bon choix puisqu'il marque.
7-5 donc en faveur du Racing 92 face à Toulouse. Vous l'avez vu, il y a de l'enjeu, il y a de la tension, il y a de l'incertitude sur toutes les pelouses de Top 14. C'est l'ultime journée de la saison régulière de Top 14. On l'a vu tous ensemble sur les différentes pelouses avec Johan Huget, notre consultant. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Karine Gaye. 21h25, vous êtes sur RMC. On vit la dernière journée de Top 14. La saison régulière se termine ce soir avec Johan Huget. Il y a de l'incertitude, il y a de l'enjeu de partout. On va tout de suite aller à Bordeaux. Nous sommes évidemment au stade Chaban-Delmas avec Pierre Thévenet. C'est Clermont qui a pris les devants.
Et à l'instant, Bordeaux qui revient grâce à son capitaine Maxime Lucu sur une pénalité vite jouée à la main à 5 mètres de l'but clermontois. Maxime Lucu qui s'est fait la malle et qui va marquer tout seul. Mais en effet, juste avant, Karine, les Clermontois avaient inscrit le premier essai de la rencontre après un jeu au pied du Goros contré par le demi d'ouverture clermontois Harry Plummer. Clermont avait pris les devants 7-3 et donc désormais cet essai du capitaine bordelais Maxime Lucu va leur permettre de repasser devant 8-7 en faveur des Bordelais avant la transformation à venir du Goros dans quelques instants. Il va s'élancer avec son pied gauche. Johan, on est vraiment sur un match de phase finale. Il y a énormément d'intensité. Il y a des petites erreurs aussi qui coûtent très très cher les équipes qui punissent leurs adversaires.
Oui, effectivement, on est sur un match éliminatoire, hein, pour l'une ou pour l'autre équipe. Et on sent que chaque erreur coûte cher à son équipe. Et il va falloir être un peu plus vigilant sur les fondamentaux. Notamment, on voit un essai sur un contre, là, sur une pénalité vite jouée. À ce niveau-là, c'est assez difficile et trop facile pour marquer, pour prendre des essais de cette façon.
Et c'est transformé par Hugo Reuskarine et donc l'Union Bordeaux-Bègles mène 10-7 face à Clermont à la 21e minute de jeu. À noter que Clermont est encore en infériorité numérique pour 3 minutes après un carton jaune contre son capitaine et demi de mêlée Baptiste Jaune.
C'est extrêmement serré sur les différentes pelouses de Top 14 et notamment entre La Rochelle et le Stade Français. Romain Asselin.
Avec la réaction parisienne il y a 2 minutes, 20e minute, bientôt 7-5 pour les Rochelais qui avaient marqué les premiers. Égalisation, en tout cas au niveau du nombre d'essais de Joe Marchand qui est allé marquer sur l'aile après une pénalité, enfin un bras cassé obtenu sur introduction adverse en mêlée à 10 mètres de l'embut Rochelais. Voilà des Parisiens pragmatiques pour l'instant et qui reviennent à deux petits points. Eux qui espèrent aller chipper la deuxième place à Montpellier. Ce sera difficile, mais en tout cas, au moins prendre un bonus défensif pour assurer la troisième place et éviter la moitié de tableau de Toulouse. La mêlée sur les 40 mètres, c'est en train de se rééquilibrer entre Parisiens et Rochelais dans ce secteur de jeu et les Parisiens qui vont occuper au pied. 7-5 pour La Rochelle après 20 minutes.
Direction Gerland, Edouard G, c'est le Loup qui est devant face à Montpellier, dis donc.
Oui, mais Montpellier a réduit l'écart sur un essai magnifique avec l'inspiration de Léo Colli, le petit coup de pied au-dessus de la défense lyonnaise pour ensuite Fian Chistera donner le ballon à Gabriel Ngandébé et donc qui a marqué cet essai, un essai transformé il y a une minute de cela. Nous en sommes à la 21e désormais, 12-7 donc pour le Loup avec un arbitrage vidéo en cours. Donc je vous rappelle après pour savoir ce qu'il en est de cet arbitrage vidéo. Donc pour l'instant 21 minutes de jeu, toujours avantage pour le Loup mais plus que de 5 points.
On revient te voir bien évidemment. Les Castrés sont opposés au Toulonnais Julien Landry, deux essais en faveur de Castres.
Exactement, de la porte le capitaine Arata, le demi de mêlée qui ont puni les approximations toulonnaises. Ils ont la possession les Toulonnais, mais quand ils rentrent dans les 22 mètres, il y a souvent un dernier geste pas forcément très juste, comme à l'instant là, cette passe de Coulon dans le vide, même si derrière ça va être récupéré par Thuy Couvou qui va aller derrière la ligne aplatir l'essai pour la réponse des Toulonnais. Mais les Castrés se sont arrêtés parce qu'ils estiment qu'il y avait un en avant, qu'il y avait le soigneur sur le terrain et que le jeu aurait dû s'arrêter. On va voir ce que va décider Monsieur Kerr, mais ça fait 12-0 en tout cas pour le CO après 24 minutes de jeu en attente de la décision sur l'essai de Thuy Couvou.
Eddy Artigo, Pau est opposé à Montauban, les Palois qui sont devant.
Oui, avec un quatrième essai, je n'ai pas coupé la chic à mes petits camarades, hein, le quatrième essai de Thibaut Dobagna, synonyme de point de bonus offensif, les Palois menaient 24-7, mais la très très belle réaction encore une fois de l'équipe de Montauban avec Paul Vallée qui déchire le dernier rideau défensif et qui trouve à hauteur eh bien son troisième ligne, Uanivi, qui aplatit donc entre les poteaux et l'essai est transformé par le buteur évidemment de cette formation de Montauban. Il s'agit de Thomas Fortunel, 24 pour Pau, 14 pour Montauban, donc il n'y a plus de points de bonus offensif pour la section paloise.
On va retourner voir ce qui se passe à la Défense Arena. Le Racing 92 est opposé à Toulouse. On est avec toi Clément Crécio.
Et c'est chaud pour le Racing en ce moment, on est à 10 mètres de l'embut francilien. Ce sont les Toulousains qui ont la main sur le ballon depuis plusieurs minutes. Ils arrivent à se trouver, ils arrivent à multiplier les temps de jeu, des passes après contact. On voit un peu le meilleur visage du Stade Toulousain malgré l'équipe remaniée. Alors là, on a un petit temps faible, on est sur la ligne des 22 mètres. Et pour l'instant, c'est le Racing qui doit faire le dos rond depuis quelques minutes. Alexandre Roumat qui a le ballon très actif. On est venu chercher large côté Toulousain. On est allé chercher sur les deux ailes, un Ange Capozzo très remuant. Il y a Teddy Thomas qui a touché le ballon aussi, qui est très écarté. Et voilà, pour l'instant, ils confisquent la balle, les Toulousains. Et il montre un très beau visage, Johan, hein, malgré l'équipe remaniée.
Oui, ils sont venus là pour, bien sûr, certains joueurs ont besoin de marquer des points. Et avant les demi-finales, ils ont tout à gagner, hein, sur un match comme ça où ils sont déjà qualifiés avant de partir une semaine en stage pour préparer la demi-finale.
On va retourner à Lyon. Édouard G, la décision arbitrale après la vidéo est tombée.
Oui, ça va être une pénalité déjà pour le Loup qui est transformé par Martin Mélian de 15-7. Voilà pour le score. Mais le plus important, c'est un carton orange pour Yacouba Camara qui, jeu déloyal, a expliqué à monsieur l'arbitre, monsieur Nouchi. Pas de circonstances atténuantes, degré de danger élevé, a-t-il dit dans les enceintes du stade ici. Et du coup, voilà les Montpellierains à 14 contre 15 pendant 20 minutes donc, double peine donc, c'est infériorité numérique et en plus derrière 3 points de plus et le Loup est devant 15-7 à la 22e.
Johan, logique cette décision arbitrale?
Oui, la décision arbitrale est totalement logique. Après, c'est rare pour le souligner d'avoir un nouveau carton orange. On pensait que les arbitres l'avaient oublié, mais apparemment, sur la fin de saison, il refait surface et ça arrange un peu tout le monde. Il n'y a pas de rouge à mettre et dans 20 minutes, ils se retrouveront à 15.
Carton orange donc sorti. L'UBB face à Clermont. Pierre Thévenet, on est avec toi, Chaban Delmas.
Les Bordelais sont de retour dans les 22 mètres. Clermontois, 10-7 en faveur de l'UBB. Baptiste Jauneau, le demi-de-mêlée clermontois, qui fait son retour après ses 10 minutes sur le banc. Johan, il y a de l'envie côté clermontois, il y a de l'agressivité, mais il y a beaucoup de petites erreurs qui, pour l'instant, permet aux Bordelais de dominer cette première période.
Effectivement, il y a beaucoup d'imprécisions côté clermontois. Après, c'est un match éliminatoire. Donc, les 20 premières minutes ou les 25 premières minutes, il va falloir se mettre un peu dans le bain. Et une fois la fatigue est rentrée, on va reprendre un jeu un peu plus collectif. On sent que là, les clermontois jouent les uns après les autres et pas pour les autres. Donc, petit à petit, je pense que les clermontois vont réussir à poser leur jeu et à poser vraiment de difficultés à cette équipe bordelaise. Attention.
Avant ça, il va falloir défendre une excellente mêlée à venir pour les Bordelot-Béglé. On est à l'entrée des 22 mètres des Clermontois. Introduction pour Maxime Lucu avec tout le côté droit à exploiter pour cette équipe bordelaise avec Hugo Reus, Moefana, Penaud, Bielbiar et tous les internationaux sont placés pour essayer d'attaquer ce côté droit de l'attaque bordelaise sous les encouragements de Chaban Delmas. Est-ce que la mêlée va se jouer? La dernière avait été compliquée entre les deux équipes. On va devoir patienter un petit peu, Karine, on peut refaire un tour ailleurs. 27e minute de jeu, 10-7 pour l'UBB qui mène face à Clermont.
Effectivement, on va faire un petit tour, on revient te voir. Ça a chauffé à La Rochelle. On est avec toi, Romain Asselin. La Rochelle face au Stade Français.
7-5 pour l'instant pour les Rochelais. 25e minute, un essai de chaque côté. On a failli voir le deuxième essai Rochelais avec une longue possession dans le camp adverse, une diagonale au pied rasante de Yaya West avec le numéro 15. Et là, voilà, la course un peu court, elle était un peu longue aussi, cette passe de West qui est sortie de l'embut. Mêlée à suivre pour le Stade Français dans ses 40 mètres. Et autant il y avait une grosse domination en mêlée des Rochelais dans les 3 premières minutes, autant ça s'est un petit peu équilibré. 7-5 pour l'instant, avantage La Rochelle après 25 minutes.
Retour à la défense Arena, le Racing 92 face à Toulouse, Clément Crécio.
Et oui, 26e minute de jeu ici, toujours 7 à 5 et toujours Toulouse qui a les mains sur le ballon, même si le Racing a réussi à sortir de son camp. Voilà, ce sont les Toulousains depuis 10 minutes qui ont le contrôle du match. Il y a un Toulousain qui reste au sol, ils attaquent à 14, ils sont pour l'instant sur l'aile droite. Là, c'est Paul Coste qui est venu impacter, il est bien plaqué, mais la défense francilienne elle tient bon quand même. Hein.
Oh, signaler. L'essai bordelais face à l'ASM Clermont, Thébaud Mathieu, le troisième ligne internationale qui est sorti tout seul d'une mêlée sur la ligne des 22 mètres. Il est sorti en position numéro 8. Ça s'est un petit peu écarté, Johan, devant lui la défense, on n'a pas trop voulu y aller. À côté Clermontois, il a franchi et il est très très rapide, le troisième ligne centre bordelais, et il finit le boulot tout seul sur une course d'une vingtaine de mètres et permet à son équipe de mener 15 à 7 avant la transformation et bientôt 17 à 7. Mais quelle course, Johan, de la part de Thébaud Mathieu.
Ouais, très belle course, c'est sorti de mêlée, très belle course. Il arrive à utiliser sa puissance et sa vitesse pour aller aplatir quasiment entre les poteaux côté bordelais. C'est un joueur extraordinaire et rempli de talent et qui le prouve encore une fois ce soir.
Edouard, j'ai que se passe-t-il ? Pardon, je voulais aller au Loup, au Stade Irlande, parce qu'il y a une bastille.
La bagarre, toi, c'est pour ça que.
Je le regrette, tu vois. Je fustige les gens qui se battent, moi. Ce n'est pas les valeurs du rugby, c'est pas ce qu'on me répète chaque week-end. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Geste d'anti-jeu volontaire. Ouais, effectivement. Donc là. Ce sont les Lyonnais qui vont être pénalisés sur le coup. 25 minutes de jeu, 15 à 7 toujours pour le Loup, mais possibilité pour les Montpellierains de revenir à 5 points puisqu'il y a une pénalité qui va être tentée, alors que Karim Ghezal est en train de dire pourquoi, alors qu'il y avait une générale, hein, Johan.
Générale parce que les Montpellierains sont frustrés de leur prestation du début de match et voilà, ça s'écharpe un petit peu sur.
C'est du posage de maille, c'est du tirage de maille. Il y en a loin des grandes bagarres.
Julien Landry, la castre, mais il a un œil évidemment sur Gerland.
Ouais, oui, évidemment. C'est du tirage de maillot, on est loin des grandes bagarres, Karine, on te montrera des images.
Oui, d'accord, mais sinon, les Montpellierains, ils se réveillent quand, Julien, là?
Ouais, ils doivent avoir l'oreille au Stade Français La Rochelle. Faut un petit match pour le moment. Il y a une grande partie, mais bon. Ah, ils sont pas loin, ils sont dans les clous encore.
Oui. Allez. Tout va bien et tout peut se décanter évidemment, notamment en seconde période. Le temps, le score sur les différentes pelouses de Top 14. On est à Bordeaux avec Pierre Thévenet.
29e minute de jeu, 10 points d'avance pour l'Union Bordeaux-Bègles qui mène à 17 à 7 grâce à deux essais de Maxime Lucu et Thémo Mathieu.
Face à Clermont, Romain Asselin, La Rochelle face au Stade Français.
La 29e également, toujours 7-5 pour La Rochelle.
Le Racing 92 face à Toulouse, Clément Cressio.
27e minute de jeu, un essai partout, 7 à 5 pour le Racing.
Nous sommes également à Castres, justement, avec Julien Landry pour Castres-Toulon.
29e minute à Pierre Fabre et c'est le CO qui fait la course en tête, 2 essais, 12 à 7 pour Castres.
Direction Pau, Pau-Montauban et Diartigo.
Avec ce score à l'avantage de la section paloise qui mène Karine à la demi-heure de jeu, 24 à 14. 10 points d'avance pour les Bernais, mais il n'y a pas de points de bonus offensif.
Et Edouard G, le temps, le score à Lyon.
Et les Montpellierains qui sont revenus grâce à cette pénalité de Léo Colli, 15 à 10. Et on rappelle que jusqu'à la mi-temps, ils seront à 14 contre 15. Donc ils marquent dans leur période d'infériorité numérique. Ils sont toujours dans les clous, comme dirait Julien Landry, 15-10.
Et Bayonne, Caracol en tête, 21 à 0 en faveur des Bayonnais face aux Perpignanais. Vous êtes sur RMC, on suit la dernière journée de Top 14 avant les phases finales. On est ensemble jusqu'à minuit, le rugby, et puis juste après l'after foot. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 21h40, vous êtes sur RMC. On vit la dernière journée de Top 14 avec Johan Huger. 7 matchs au programme. Nous saurons évidemment ce soir qui va participer aux phases finales, qui accompagnera Toulon, Montpellier, le Stade Français et Pau. On rappelle qu'il y a 4 prétendants pour 2 places. On va tout de suite retrouver Pierre Thévenet, l'UBB face à Clermont. Pierre, c'est toujours aussi serré entre les deux formations.
Ouais, même si Bordeaux a pris un petit peu d'air, hein. 17 à 7, 10 points d'avance pour les Bordelais qui, pour l'instant, garantissent leur place dans le top 6 au vu des résultats sur les autres pelouses. Mais ils vendangent un petit peu, les Bordelais. Il y a une énorme occasion avec Boris Palu qui a relâché le ballon juste devant la ligne clermontoise. Ça va donc donner une mêlée en faveur des Auvergnats devant leur propre ligne. Mais on sent, Johan, que dès que les Bordelais accélèrent et arrivent à enchaîner un petit peu les temps de jeu, c'est compliqué pour Clermont en défense.
Ouais, c'est compliqué, hein. Cette équipe-là, elle n'est pas double champion d'Europe pour rien. Ils ont des automatismes. Ils sont devant leur public, ils ont envie d'aller chercher cette sixième place. Et voilà, on le sent, hein. Ils maîtrisent leur sujet de bout en bout. Maintenant, voilà, dans des Clermontois un peu en dedans comparé à l'enjeu de cette partie.
Fabien qui marque avant la pause, les Clermontois pour relancer un petit peu cette rencontre. Pour l'instant, ils doivent déjà sortir de leur camp. C'est fait par la botte d'Harry Plummer. 33e minute de jeu, 17-7 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles.
On est à La Rochelle avec toi, Romain Asselin. La Rochelle face au Stade Français.
Le score n'a pas bougé, 7-5 pour La Rochelle, 31e minute. Les Rochelais qui vont dans les 22 mètres parisiens avec une touche. Il y a eu un choc tellurique entre deux droitiers. J'aurais pas aimé être au milieu entre Sclavi et Melikidze. Choc tête contre tête. Et il y a eu un carton jaune pour le Parisien. Les Rochelais à 15 contre 14 qui font le forcing à 5 mètres de la ligne d'en but du Stade Français. Ça va renverser avec peut-être un surnom, Jules Favre, qui vient casser un plaquage et faire un début de match énorme. Jules Favre, lui qui avait marqué un triplé la semaine dernière à Montauban. L'atout qui est servi. Ça se rapproche de mètres pour le Stade Rochelais avec le Garec en courrier en pivot. La passe mal exécutée et derrière ça part en contre, mais monsieur Charabas qui va revenir à un hors-jeu de ligne. Ça chauffe devant le camp parisien, toujours 7-5 pour La Rochelle à la 32e.
Le Racing 92 face à Toulouse, c'est avec Clément Cressio.
Et toujours 7-5 ici aussi, on est à la 32e minute de jeu. Il y a eu une grosse occasion là des Toulousains, comme d'habitude souvent sur un contre. Teddy Thomas qui a poursuivi au pied, il a montré qu'à 32 ans il avait encore des cadres, il a dépassé tout le monde. Tuisova, il a dépassé Max Spring et dans un dernier élan, l'arrière francilien qui a réussi à propulser son ballon en ballon mort justement. Là ce sont les franciliens qui sont à l'attaque, on va aller chercher bien large, shoot au bout là-bas sur l'aile de Gaël Ficou, passe à rebond qui complique les choses, donc la pression défensive toulousaine qui revient. Voilà, le rythme du match est un peu redescendu, on en est toujours à 7-5, 32e minute et le Racing commence à remettre un peu les mains sur le ballon parce qu'il va falloir qu'ils essaient de marquer. Johan, étant donné le gros banc de Toulouse, ce ne serait pas la meilleure opération, d'arriver avec peu d'avance au score aux alentours de l'heure de jeu.
Ouais, ils ont un gros banc aussi les Racing maintenant, donc ça va se valoir. Toulouse n'a pas intérêt à faire rentrer son gros banc hein, pour en vue des phases finales et des demi-finales qui arrivent. Donc cette équipe-là va finir le match s'il n'y a pas de blessés. Mais on en voit une très belle équipe toulousaine aujourd'hui face au Racing.
Il y a quelques fautes de main qui gênent quelques transmissions, mais franchement ils arrivent à se trouver un peu plus que ces dernières semaines. Les Toulousains, on sent que le travail et l'entraînement est en train de payer en vue des demi-finales.
Ouais, ça a l'air, il faut attendre le rebond, c'est toujours ça quand on fait des sortes de mini préparations physiques, on arrive sur des matchs, sur certains matchs on est fatigué, on comprend pas trop pourquoi, et on a pu le voir le week-end dernier, c'était un peu tiré par les cheveux cette rencontre, ils ont gagné difficilement, et là on sent une équipe qui domine son sujet face à une très belle équipe du Racing qui joue sa qualification, ne l'oublions pas.
Il y a beaucoup de spectacles au stade du Hameau, Eddy Artigo, on est avec toi, Montauban se rebiffe.
Ouais, Karine, effectivement, avec un nouvel essai, le troisième pour les Montalbanais par Jean Charazé. Cet essai a été transformé par le buteur, évidemment, Thomas Fortunel, et les Montalbanais qui reviennent à 10 longueurs de peau, 31-21. Il n'y a plus de points de bonus offensif, et c'est vrai que pour l'instant, avec bien ce point pris par le Stade Français sur la pelouse de La Rochelle, les Palois affronteraient pour l'instant, bien le Racing en barrage, ce ne serait plus l'UBB. Alors évidemment on fera les comptes comme tu le disais dans la présentation, ce sera en fin de deuxième mi-temps, mais pour l'instant sur ce match-là, alors que les Palois ont rapidement marqué 4 essais, les visiteurs se rebiffent un petit peu pour leur dernière rencontre de top 14 avant de retrouver la Pro D2. Ils reviennent donc à 10 longueurs, 31-21. Karine, il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer avant la fin de ce premier acte.
On va retourner voir Julien Landry entre Castres et Toulon, il y a eu un nouvel essai.
Ouais, nouvel essai des Castrés, Florent Vandenberg, les Castrés qui font un bon match pour la dernière, qui joue les nombreux ballons. Ils restaient sur 6 défaites consécutives et là ils ont envie de finir la saison de la plus belle des manières devant leur public, même s'il y a eu un peu de bobo, des protocoles commotion. Le retour de Nakarawa sur la pelouse est 19-7 pour les Castrés, et alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période.
Et Toulouse qui prend les devants ici à l'Arena, c'est Teddy Thomas qui inscrit le deuxième essai des Toulousains. On est venu chercher à nouveau le large sur l'aile de Teddy Thomas, donc le remuant ailier du Stade Toulousain ce soir. Mathias Rému qui parvient parfaitement bien à jouer son 2 contre 1. Et il y a Teddy Thomas qui glisse juste avant la ligne et qui parvient sur son élan tout de même à aplatir le deuxième essai des Toulousains. Et avant la transformation, ça fait 10-7. Attention au gros coup
du Stade Toulousain. Le troisième essai bordelais face à l'ASM Clermont-Auvergne sur un ballon porté. Les Bordelais qui ont mis en surface la défense de Clermont. Et c'est finalement le troisième ligne, Pierre Beauchaton, qui vient marquer ce troisième essai bordelais, donner de l'air au bord de l'eau Béglet face à Clermont, 22-7 avant la transformation qui va être tapée par Hugo Reuss. On joue la 38e minute et Bordeaux est en train d'entrevoir un petit peu plus ces phases finales au vu des résultats sur les autres pelouses. Bordeaux en tout cas fait le boulot de son côté, se rapproche même d'un bonus offensif. Il leur manque plus qu'un essai pour ça. 24 à 7 en faveur de l'UBB qui a vraiment vraiment accéléré sur cette fin de première période.
Et la transformation a été réussie. On va évidemment analyser tout ça avec Johan. D'abord l'essai toulousain.
Ouais. Alors il y a un arbitrage vidéo.
Magnifique arbitrage vidéo sur Toulouse.
Ah oui, on voit effectivement
regardez, c'est pas une passe en avant, le corps arbitral qui est en train de regarder donc s'il va valider finalement cet essai et peut-être estimer. Je sais pas quelle passe exactement pose problème, peut-être celle de.
Voilà, je ne vois pas le problème sur cette action.
Est-ce qu'il considère là que Aldeguerri sur le rug précédent, il n'y a pas un en avant repris devant là avec on a Julien Marchand qui relève son ballon pour le pilier droit. Aldeguerri n'arrive pas à s'en saisir et donc ça revient sur Julien Marchand. Est-ce qu'il pourrait considérer que c'est un en avant repris devant? Je sais pas.
Ou un avant
court, l'essai, l'essai n'est pas validé. Voilà. L'essai n'est pas validé et c'est un en avant effectivement. Donc on va revenir à une mêlée pour le Racing. Donc le score qui finalement va être de 7 à 5. Le Racing reste en tête.
Donc essai refusé pour les Toulousains et on va revenir maintenant à Bordeaux. Ouais, parce que l'essai bordelais, lui, il a bien été validé, Johan.
Ouais, l'essai bordelais était bien validé et ils prennent le large 24 à 7 à la mi-temps. Le matelas confortable pour les bordelais qui maîtrisent pleinement cette rencontre et qui ont l'habitude des matchs en jeu. On le voit, hein, ils sont pas comme les Clermontois sous la pression.
Bordeaux qui est en train
attention
de faire le job.
Il y a un très bon ballon d'attaque pour Clermont pour tenter de revenir juste avant la mi-temps. On est à la 40e minute, on est à 5 mètres de l'embut Bordeaux-Béglet. Il y a un avantage en cours pour les Clermontois. Le seul truc qu'ils n'arrivent pas bien à gérer, les Bordelais, ce sont ces renvois. Dès qu'ils marquent, ils se mettent souvent sous pression rapidement. Et on va essayer de faire travailler les avants côté Clermontois pour venir réduire l'écart avant la mi-temps. Essayer de faire mal à Bordeaux. Baptiste Jauneau qui essaie de se faufiler tout seul. Il est repris à un petit mètre de la ligne. Les avants Clermontois qui tentent de faire le boulot. Ça défend bien pour l'instant côté Bordeaux. De l'Aubéglet, Baptiste Jauneau à la manœuvre de cette attaque avec Léon Daricarrère qui tente de percuter et qui fait exploser le défenseur et qui vient marquer. Léon Daricarrère, énorme course de la part du centre clermontois et qui est venu faire exploser le plaquage, il me semble, de Pablo Huberti pour venir marquer tout seul cet essai lancé à 7 mètres de l'embut bordelais. Et ça relance Johan un petit peu le suspense juste avant la pause, 24 à 12 avant la transformation d'Harry Plummer.
24 à 12, si c'est transformé, ils reviennent à moins de 10 points. Donc ça relance le suspense de ce match avec un très bel essai d'Harry Carrère qui vient avec toute sa jeunesse et sa fougue, sa détermination pour venir aplatir cet essai et remettre Clermont dans le match.
La maîtrise Montpellier-Rennes.
Édouard G.
Petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Cette équipe de Montpellier qui est à 14 contre 15 depuis 17 minutes. Et bien pendant ce temps-là, elle inflige un 9 à 0, 3 pénalités de suite. Et surtout au tableau d'affichage, et bien voilà les Montpellierains qui sont en infériorité numérique et qui passent devant pour la première fois dans cette rencontre. C'est important au niveau du tableau d'affichage, mais c'est important aussi psychologiquement parlant. On est plein de maîtrise, on fait commettre des fautes aux Lyonnais et les pénalités, Léo Colli est dans un jour avec 100% pour le moment. Et ça fait donc 16 à 15 pour Montpellier ici au Loup dans les dernières secondes de la première mi-temps.
À Bordeaux également.
Et oui, donc Montpellier qui prend les devants. Eddy Artigon, t'as entendu, effectivement, c'est la pause à peau.
Oui, la pause à peau avec un nouvel essai de Jimmy Maxima, le deuxième ligne international de cette section paloise, pour permettre à Pau de mener bien 38 à 21. Karine, de nouveau le point de bonus offensif et Pau qui est évidemment bien calé pour l'instant à cette place de barragiste avec un barrage à domicile. On connaîtra, on le rappelle, l'adversaire, ce sera peut-être l'UBB, peut-être le Racing 92. En tout cas, les Palois font le job face à une valeureuse équipe de Montauban qui aura quand même marqué 3 essais lors de ce premier acte, 38 à 21, donc à l'avantage de Pau. Le retour des vestiaires, ce sera dans un petit peu moins d'un quart d'heure.
À tout à l'heure, merci beaucoup Pierre. Bordeaux est devant à la pause également.
10 points d'avance pour les Bordelais, 24 à 14. Lucu, Mathieu et Beauchaton sont les marqueurs d'essai côté Bordelais. Harry Plummer et Léon Daricarrère juste avant la mi-temps pour redonner de l'espoir à Clermont qui est donc 10 points derrière. 24-14 pour l'Union Bordeaux-Bègles.
On va également aller du côté de La Rochelle, Romain Asselin. Entre La Rochelle et le Stade français, ça joue toujours.
Ouais, c'est très serré, il reste 2 minutes avant la sirène de cette première mi-temps, toujours 7-5 pour La Rochelle qui avait l'occasion de faire un petit break avec cette supériorité numérique qui a été mal exploitée à 5 mètres de la ligne du Stade Français. Ils ont d'abord gagné une mêlée, ils ont redemandé la mêlée avec un pack qui poussait à 8 contre 7. Et bien c'est le pack en infériorité qui a gagné la mêlée suivante et Paris est toujours dans le coup avec cette chandelle montée impeccable à la retombée. Les Parisiens, ballon sur la médiane, 7-5, 2 points d'avance pour La Rochelle, il reste 2 minutes.
On va aller voir Julien Landry, Castres-Toulon, ça joue également.
Ouais, la sirène a retenti et des Toulonnais qui sont en train de tenter de jouer ce dernier ballon. Ils sont menés 19-7 à la mi-temps et voilà, finalement dans leurs 22 mètres, les Toulonnais qui vont taper en touche. 19 pour Castres, 7 pour le RCT. Mi-temps sifflé à l'instant.
Magnifique, à tout à l'heure Julien, merci beaucoup. Entre le Racing 92 et Toulouse, c'est encore actif et c'est Toulouse qui a le ballon. Clément Cressot.
Ils viennent de le perdre à l'instant, mais que c'est dur pour les Racingmen cette fin de première période. On a un Paul Coste qui est intenable, qui vient de percer par deux fois la ligne. Il a été repris in extremis il y a quelques minutes, à quelques centimètres à peine de l'embut du Racing. Là encore une fois, il a percé le rideau défensif. Il est parvenu à transmettre dans sa course pour une percée de 30 mètres. Il y a eu juste deux en avant qui ont permis aux Racingmen de s'en sortir, mais ils ont vraiment du mal là, les hommes de Patrice Collazo. Il reste encore 2 minutes à jouer dans cette première période et je pense que ça va peut-être se secouer dans le vestiaire parce que là ils sont pas du tout dans leur match et c'est le Stade Toulousain qui domine.
Laissez du loup alors qu'il restait une possession pour une mêlée et une possibilité pour les Lyonnais. Eh bien c'est Théo William qui est allé aplatir et derrière Martin Méliande qui va essayer de transformer l'essai. Là il est sur la ligne des 22, l'angle est parfait pour un droitier. Pour l'instant ça fait 20 à 16 pour le Loup et ça fait désormais 22 à 16. Et bien voilà, le Montpellier héros était en tête mais pendant une petite minute et le Loup derrière a marqué son troisième essai pour virer en tête à la mi-temps 22 à 16. Mais on rappelle que Montpellier était pendant ces 20 dernières minutes à 14 contre 15, mais ça arrivera à 15 contre 15 pour la reprise.
Il va y avoir essai pour le Stade Français sur la sirène. Jérémy Ward qui vient plonger dans l'embut. Oh, quelle séquence des Parisiens, magnifique. Ça chambre un peu et Paris passe devant et du coup Paris passerait virtuellement devant Montpellier si les scores en restaient là. En tout cas, ce sera probablement le score à la mi-temps avec Paris qui passe devant 10 à 7 avant la transformation. Et ils sont réalistes, hein, Johan, les Parisiens ce soir.
Oui, ils sont très réalistes. Hein. Ils ont fait le dos rond pendant quelques minutes avec un début de match compliqué. Les Rochelais ont du mal à concrétiser. Derrière, ils arrivent avec leur capitaine Jérémy Ward, toujours en tête d'affiche et en tête de gondole pour remettre les Parisiens devant.
Là, ça s'est fait sur une perte de balle quand même qui était évitable. Non ?
Tous les matchs ont des scories. Et ces scories-là, on en profite. Les équipes en face en profitent.
Oh, j'ai dit plus rien, Yoann. Il m'a fait un regard noir.
Non, mais ce sont des matchs qui comptent. Et bien sûr, l'équipe en face se nourrit de scories. Et à ce niveau-là, c'est sûr que perdre le ballon aussi facilement et bêtement de la part de Rochelet nourrit les Parisiens.
Ouais, elle est belle cette transformation de Louis Fourson pour mettre un terme à cette première mi-temps. Ça fait 2 points de plus pour le Stade Français qui mène 12 à 7 et qui vient de doucher de flanc. On disait que La Rochelle devait prendre un bonus offensif pour optimiser ses chances de qualification. Ouais, c'est bien mal parti et quand on voit la tête du président Vincent Berlingue, coup dur pour les Rochelais qui sont menés pour l'instant 12 à 7 par le Stade Français.
Eh oui, La Rochelle fait grise mine. Merci beaucoup Romain, c'est la pause donc entre La Rochelle et le Stade Français. C'est le Stade Français qui est devant. On retourne voir Clément Cressiot. Entre le Racing 92 et Toulouse, ça joue toujours.
Oui, la sirène a retenti il y a une trentaine de secondes. Il y avait une dernière possession à jouer après la pénalité manquée de Antoine Gibert. Alors Kinghorn, il a tapé un coup de pied rasant, je pense en espérant que ça cafouille en face. Il a eu raison puisque Naitouvi n'a pas réussi à se saisir du ballon. Et du coup, ça a été repris devant par Tussova. Finalement, les Toulousains, ils vont obtenir une dernière possession avec cette pénale touche. On est allé à une quinzaine de mètres du Racing. Donc, ils ont encore une cartouche pour essayer, pourquoi pas, de repasser devant juste avant la mi-temps. C'était pas forcément prévu. Je pense que tout le monde aurait été content que ce ballon sorte en touche et qu'on rentre au vestiaire. Et finalement, là, c'est plutôt pas mal pour les Toulousains. Donc, ils peuvent essayer de tenter un dernier coup là. On est à plus de 1 minute 10 après la sirène. Le lancer de Julien Marchand à venir. On a vu les Racingmen donc il y a quelques instants essayer de prendre les 3 points cette fois-ci, Johan, alors qu'au début de la rencontre ils étaient partis en touche sur les pénalités.
Ils font le dos rond maintenant aussi côté Racing Man de prendre le large et le score le plus tôt possible avant de le
distancer. Et ballon perdu là sur la touche. C'est compliqué. Ballon perdu sur la touche, Carbonneau qui éjecte ce ballon en dehors des limites du terrain. Cette fois-ci, c'est la mi-temps, donc 7 à 5 en faveur du Racing. Un Racing qui a bien eu du mal sur les 20 dernières minutes de cette rencontre.
Merci beaucoup.
Le meilleur du rugby sur RMC avec Total Energy, partenaire officiel du Top 14 et supporter officiel de la Pro D2.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
C'est la pause sur toutes les pelouses de Top 14. Vous le savez, on vit l'ultime journée de ce championnat avec les 7 matchs. Dans quelques instants, les enseignements après cette première période avec Johan Hugé. On est ensemble jusqu'à 23h pour vivre le live du rugby. Et juste après, il y aura l'after foot avec Maxime Chano et Florent Gautreau. A tout de suite sur RMC.